Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 71 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui de la contamination émotionnelle. C'est le sujet que vous m'avez le plus demandé cet été quand j'ai fait un sondage sur Instagram sur les prochains thèmes des épisodes de podcast. Vous m'avez aussi proposé de faire régulièrement des foires aux questions. Donc je vous invite à m'envoyer sur Instagram ou sur Facebook la question sur laquelle vous voudriez que je fasse un épisode très prochainement. Et en attendant, on va attaquer ce sujet de la contamination émotionnelle. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode des Petits Plus Zen, je vais vous faire un petit refresh du fonctionnement de notre cheminée des émotions. Cet outil, qui est principal vraiment au cœur de la pratique des Petits Plus Zen, va nous permettre de comprendre comment on peut se sentir contaminé par les émotions des autres et comment nous-mêmes on peut contaminer les autres avec nos propres émotions. Ce qui est complètement normal et naturel, ce qu'on a fait depuis des dizaines d'années, ce que personne ne nous a appris. Donc on va déjà se mettre au clair très très vite sur cette notion. On ne savait pas faire autrement avant, on n'a pas appris à faire autrement avant. Donc on a pu subir ces contagions émotionnelles, on a pu subir ces contaminations émotionnelles depuis des années et même le faire subir nous-mêmes puisque nous n'en étions pas encore conscients. Donc on ne va pas déjà se rajouter une flamme de culpabilité hein, ou une flamme de jugement avec Léopold là-haut qui est en train de nous dire « Oh là là, t'as exagéré à contaminer tout le monde avec tes émotions ». Pas de jugement, hein. Laissons Léopold où il est. Merci Léopold, assieds-toi, prends un thé, repose-toi. Et nous, on va pouvoir explorer comment faire pour créer une étanchéité entre notre cheminée des émotions et celle des autres, que ce soit des adultes ou des enfants, les nôtres ou les élèves ou tous ceux qui sont autour de nous. Donc, petit refresh sur la cheminée des émotions. Imaginez que vous avez près du cœur une cheminée des émotions qui est là en continu depuis votre naissance. Cette cheminée des émotions, elle fonctionne vraiment toute la journée, du matin où on se réveille jusqu'au moment où on se couche. Et en fait, dans notre cheminée, il y a des flammes régulièrement. Donc, des flammes qu'on va pouvoir décoder, hein, des flammes de tristesse, de peur, de joie, de culpabilité, de honte, de satisfaction, de colère, de sérénité. Vraiment, vous allez avoir tout au long de la journée des flammes qui s'entretiennent, des flammes qui s'alimentent, des flammes qui se déclenchent, peut-être des flammes qui réduisent ou qui s'éteignent. Donc, ça marche en continu, ça marche sans qu'on en soit conscient, ça marche comme notre respiration en toile de fond, quelles que soient nos actions de la journée. Ce qui est intéressant quand on se rend compte de cet outil, donc cet outil, vraiment le tout début de la genèse, vous allez la retrouver dans l'épisode 9 et 10 qui était paru le 21 juin 2021. Donc vous aurez l'historique dans cet épisode-là. Mais quand on prend conscience du fonctionnement de notre cheminée des émotions, on a un recul tout de suite, immédiat, sur ce qui est de notre ressort et ce qui n'est pas de notre ressort. Sur ce qu'on se raconte sur la situation et ce qui est réellement la situation extérieure. Pour les clientes du parcours Emotizen, elles apprennent dès le premier module les trois éléments de cette cheminée des émotions pour mieux ensuite voir ce qui est possible de changer dans notre situation ou non, pour voir ce qui est possible de reformuler, d'agir et de diversifier comme stratégie ou non. Donc là, c'est l'objet de tout le parcours Emotizen. Donc je ne vais pas vous faire le résumé de chaque module parce qu'on en aurait pour des heures, parce qu'il y a à peu près 26 vidéos sur le parcours. Donc je vous laisserai vous renseigner sur l'utilité de ce parcours à votre moment précis de développement parental. Sachez qu'il va commencer le 1er octobre, donc vous avez encore 2 semaines pour y réfléchir si vous le souhaitez. Les ventes commencent du 15 au 25 et puis ensuite il vous sera possible de rejoindre le parcours au tarif le plus haut. Sur cette cheminée des émotions, vous allez avoir donc des flammes qui sont en vous, que vous allez pouvoir observer, scanner, regarder, c'est ce qu'on fait aussi en scan des émotions et des besoins, et que vous allez pouvoir comprendre. Le premier point, c'est de voir que quand on comprend notre émotion, quand on sait ce qui l'a déclenché, le facteur neutre extérieur, donc en dehors de nous, ce qu'on s'est raconté sur ce facteur neutre extérieur à nous, donc nos pensées étincelles, coucou Léopold qui est assis en train de boire son thé, et puis ces besoins qui ont été clignotants sur nos rayures d'arc-en-ciel des besoins, donc épisode 7 du podcast, ces trois éléments-là vont nous aider à choisir la meilleure stratégie ensuite pour vivre notre émotion, pour agir dans notre vie réelle en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense et de ce qu'on voudrait. Le but de la maîtrise de notre cheminée des émotions, c'est de pouvoir agir en conscience selon nos objectifs initiaux et de ne pas se laisser parasiter par notre propre flamme. Et aujourd'hui, puisqu'on est dans le sujet de la contamination émotionnelle, il va y avoir le travail en double à faire. Et c'est là où ça devient plus compliqué, c'est que notre fonctionnement de cheminée des émotions, qui est déjà parfois complexe pour nous-mêmes, on va se rendre compte en se décentrant que l'autre, en face de nous, a exactement ce fonctionnement pour lui-même. Sauf que lui-même, en ayant vu le même déclencheur factuel neutre, donc ça, c'est la seule chose qu'on aura en commun. On aura peut-être vécu le même déclencheur neutre, mais les pensées étincelles qu'il aura avec son Léopold à lui, par rapport à ses besoins clignotants et par rapport à son arc-en-ciel à lui, seront complètement différents pour décoder ses flammes et pour agir sur son propre éventail de stratégies à lui. Donc nous, en parallèle, on va avoir une centaine d'options possibles pour agir notre flamme, pour choisir l'activité qui nous convient pour résoudre notre colère, notre frustration ou savourer notre fierté ou notre gratitude. Et l'autre personne en face, que ce soit un collègue, un partenaire de vie ou un enfant, va lui aussi avoir ses propres flammes dans sa cheminée à lui, avec ses besoins à lui et son éventail de stratégies à lui. Et là, ça change complètement la vision de la vie sociale, de la vie familiale, de la vie professionnelle. Je pense toujours à Mathèle qui m'a dit « Mais ça a changé aussi ma vie professionnelle, Séverine. » Parce qu'au travail, je me rends compte à quel point les gens sont assez immatures émotionnellement. Très souvent, on va faire porter nos flammes à quelqu'un d'autre. Et observer à partir d'aujourd'hui, qui sont les personnes autour de vous qui essayent de vous rendre responsable de leur peur, de leur tristesse, de leur frustration, de leur joie. Bon, ça c'est plus confortable, mais ça peut arriver aussi. C'est grâce à toi si, c'est grâce à toi si. Non, en fait, il partage sa flamme avec d'autres personnes, mais nous ne sommes pas responsables de cette flamme. Nous sommes éventuellement témoins du déclencheur factuel neutre qu'il a vécu aussi, qu'il a vu aussi, mais nous n'allons pas être responsables ni de ses pensées étincelles, ni des actions qu'il va choisir sur son éventail de stratégies, ni des besoins qui clignotaient sur son arc-en-ciel de besoins. Donc je peux comprendre que tout ça soit un petit peu difficile si vous venez juste d'arriver sur le podcast, mais je vais vous la refaire vraiment très précisément. Quand je ressens une flamme dans ma cheminée des émotions, j'en suis tellement responsable que mes actions ne vont concerner que moi. À aucun moment, je ne vais pouvoir dire « c'est de ta faute si je suis en colère, c'est à cause de toi que je suis triste. C'est parce que tu as fait ça que j'ai honte, que je suis heureux, etc. Et en reprenant toute la responsabilité de mes émotions, en comprenant que ce sont mes pensées étincelles qui m'ont attribué cette flamme dans ma cheminée, on reparlera des braises plus tard, parce qu'on a aussi des braises dans notre cheminée des émotions qui attisent et qui redéclenchent d'autres sensations et d'autres émotions plus lointaines, plus ancrées et plus, on va dire, liées à l'enfance et à nos blessures d'enfance. Mais là, sur aujourd'hui, juste la prochaine émotion que tu vas ressentir dans ta cheminée, essaye de voir si tu attribues une pensée étincelle. Que dit Léopold de cette flamme-là? C'est un petit peu l'exercice qu'on avait fait dans le scan de l'épisode 69. Quel était le déclencheur neutre? Et est-ce que je vais exprimer mon émotion en la faisant porter à quelqu'un? Est-ce que je vais crier sur quelqu'un en lui disant « Tu m'énerves, tu m'agaces, c'est à cause de toi !» Alors qu'on a fait tout ça. On a déjà attribué notre émotion à quelqu'un d'autre. Il nous a été quasiment impossible de comprendre tous ces raisonnements-là avant de faire un travail sur nous-mêmes. Ces idées-là, il y a 6 ans, on aurait voulu me les expliquer, je ne les aurais pas comprises. Je n'étais pas capable de voir que j'étais la seule responsable à la fois de mes émotions, à la fois de mes besoins et à la fois de mes pensées. Il m'a fallu plusieurs étapes, notamment la découverte de la communication non violente avec Marshall Rosenberg, mais aussi la découverte du poids en fait des émotions qui sont bloquées en nous, aussi de la manière d'appréhender les choses, les biais cognitifs, les biais de confirmation qu'on cherche tout autour de nous. On veut tellement être rassuré, on veut tellement avoir raison, qu'on en oublie de voir ce qui se passe réellement en nous. Et quand on revient à soi, à nos besoins, à nos émotions, à notre compréhension du monde, à notre système de pensée actuel, on se rend compte que finalement, on s'est trompé pendant des années sur l'interprétation de ce qu'on vivait. On en a voulu aux autres de nous avoir quittés, de nous avoir offusqués, de nous avoir déçus. Mais en réalité, ce ne sont jamais les autres qui nous déçoivent, qui nous quittent, qui nous mettent en colère, qui nous... Factuellement, les gens posent des actes autour de nous et nous avons le choix de réagir comme nous voulons. Alors, il est admis dans la société que quand on rompt une relation amoureuse, c'est de sa faute si on est triste. Mais tout ça, c'est un raccourci, c'est une manière de percevoir les choses. On peut changer cette perception. L'autre a décidé de mettre fin à la relation. Ça, c'est factuel. Ce que je ressens maintenant, vis-à-vis de la fin de cette relation, peut être de la tristesse, du soulagement, de la satisfaction, de la colère. Ça peut être tout un panel de flammes d'émotions. Mais en aucun cas, ce sera l'autre qui a déclenché cette émotion en moi. Par contre, l'autre a été un déclencheur. Il a posé un acte qui, moi, m'a fait ressentir telle ou telle émotion liée à telle ou telle pensée. Donc, ce triangle de compréhension de notre flamme entre l'extérieur qui est factuel et neutre, Léopold et ses pensées étincelles qui nous envoient une perception de la réalité liée à nos connaissances actuelles et nos expériences actuelles au jour d'aujourd'hui, on a un bagage émotionnel, un bagage de compréhension de la vie qui est tel qu'il est en fonction de ce qu'on a vécu sur notre chemin et qui nous envoie une lecture du monde extérieur qui est complètement sous un prisme individuel et personnel. Et on pense que l'autre en face réfléchit comme nous. Mais Léopold ne vient pas du même pays ni de la même nature d'expérience. Donc l'autre en face est incapable de comprendre exactement ce qu'on vit à l'intérieur. Il n'y a pas de lecture de pensée, il n'y a pas de lecture d'intention. Et même après 10 ans, 20 ans de couple, on continue à croire que l'autre en face comprend ce qu'on ressent, comprend ce qu'on pense et imagine pouvoir régler la situation sans lui exprimer. Et je m'amuse parce que je fais un coucou aux clientes avec qui on discute très régulièrement de ça. C'est vraiment quelque chose qu'on attend dans un couple notamment, que l'autre devine et agisse en fonction de ce qu'il sait de nous. Mais à tout moment, l'autre est aussi pris dans sa propre cheminée, dans son propre quotidien, dans sa propre lecture des pensées étincelles de son propre hamster. Et malheureusement ou heureusement, parce que ça a aussi des avantages, chaque personne est concentrée sur sa propre cheminée des émotions, sur son propre arc-en-ciel des besoins. Et on n'a pas la main sur ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut pas voir la cheminée des émotions des gens, l'arc-en-ciel des besoins des gens, le Léopold des gens et l'éventail de stratégies des gens. On peut collecter une partie d'indices qui resteront des perceptions, donc des déclencheurs factuels, neutres. D'ailleurs, plus ou moins neutres, hein, parce que quand on est en face de la personne aimée, on a tendance à attribuer plutôt des commentaires et des adjectifs qui seraient positifs et agréables. Et puis parfois, quand ça dégénère avec cette personne-là, d'un coup, pourtant c'est la même personne, hein, d'un coup les adjectifs deviennent négatifs, agressifs, plutôt désagréables, alors que c'est juste le ressenti, la perception de notre cœur, de notre Léopold qui a changé. L'autre en face n'a pas forcément complètement changé. Par contre, la perception et l'envie qu'on en avait, le décalage peut-être entre l'attente et l'action de l'autre, a provoqué une flamme différente. Donc, pour mieux comprendre cette contamination émotionnelle, je vous invite vraiment à dissocier ce que vous ressentez, pensez et voyez, de ce que l'autre personne, quel qu'il soit, ressent, perçoit, et vie. Et de ce point de vue-là, ça permet une grande distance avec les colères, les peurs et les tristesses de nos enfants, puisque eux-mêmes, dans leur cheminée, ils sont incapables de mettre ce fonctionnement en place. Ils n'ont pas le lien entre la flamme, la pensée étincelle, l'arc-en-ciel des besoins. Ils n'ont pas la maturité intellectuelle de comprendre ce processus. Et c'est nous, en tant que parents, en tant qu'accompagnants, qui allons pouvoir poser des mots en disant « Est-ce que tu te sens comme ça parce que tu as vu ça et que tu pensais ça alors que tu voulais ça ?» Remplissez les trois petits points à chaque fois que votre enfant est dans une flamme que vous trouvez démesurée. Finalement, chaque personne en face de nous qui ne sait plus se contrôler, qui a une flamme incroyable dans sa cheminée, peut avoir une action irrationnelle, puisque lui-même ne fait pas la clarté sur ce qu'il vit, ressent, pense et pourrait faire. Pour être encore plus précis, je pense qu'on n'a pas la main sur notre éventail de stratégies tant qu'on n'a pas regardé notre flamme en face. Si on ne regarde pas notre flamme en face, si on ne la raccroche pas à des pensées étincelles, si on ne la raccroche pas à notre arc-en-ciel de besoins qui clignotait, quelle était la rayure qui clignotait, quel était le besoin qui voulait être nourri, on ne va pas pouvoir être autonome sur le choix de notre action. On va réagir directement. On va aller à la lamelle de l'éventail qui nous paraît la plus facile, voire celle qu'on fait d'habitude. En gros, je suis en colère, je casse un objet, je claque la porte, je critique, j'insulte, etc. Peut-être que c'est la lamelle que j'utilise d'habitude quand je suis en colère, et donc je ne vais pas prendre conscience que la situation est peut-être perçue par un tout petit bout de la lunette, et qu'on pourrait voir la situation autrement si on changeait nos pensées étincelles. Donc ça, c'est un module qu'on utilise aussi dans Emotizen, c'est qu'une fois qu'on a compris nos pensées étincelles, on va pouvoir effectuer plusieurs tamis avec des outils. Donc là, je pense notamment au crash test des pensées étincelles qu'elles connaissent bien dans le parcours Emotizen. Et puis ensuite, ces pensées étincelles, on va pouvoir les transformer avec la reformulation positive. On va pouvoir aussi reformuler le déclencheur factuel neutre qui est vraiment arrivé avec la reformulation positive. Et quand on aura reformulé à la fois nos pensées étincelles et la situation extérieure, là, on va pouvoir voir l'amplitude de nos lamelles sur notre éventail de stratégies et trouver ce qui nous convient le mieux, c'est-à-dire, avec l'outil du Tequil, l'activité qui va nous aider à la fois à baisser nos flammes désagréables dans notre cheminée des émotions et à la fois à nourrir les besoins qui clignotaient sur notre arc-en-ciel. Le but, c'est peut-être de prévenir et de préserver ce qui n'allait pas en nous, de manière à ce que les flammes puissent redescendre. Si on continue à alimenter notre flamme, si on continue à refuser de comprendre ce qui est vraiment factuel et qu'on reste sur notre idée de la réalité, sur nos pensées étincelles de la réalité, une partie de nos pensées étincelles peuvent être partagées par la personne en face, mais une partie seulement, parce qu'elle n'a pas tout notre bagage, elle n'a pas toute notre expérience. Et souvenez-vous, la dernière fois que vous vous êtes mis en colère contre quelqu'un, probablement la personne en face s'est dit « Je ne sais pas pourquoi elle se met dans cet état-là. » Parce qu'on est les seuls à avoir l'historique. On est les seuls à savoir sur quel point ça appuie, sur quelle braise ça appuie, sur quel passé ça réveille le dragon en nous. Et moi, je me revois dans des fureurs, que ce soit avec mes filles ou avec mon ancien directeur d'école. Maintenant que je fais ce travail de scan de cheminée, je sais sur quel besoin ça s'appuyait. Je sais sur quelle rayure ça clignotait. Mais j'étais incapable de voir tout ça à l'époque. J'étais incapable de sortir de ma flamme de colère. Et du coup, au lieu de voir ma flamme de colère comme venant de moi, je rebalançais ma colère sur la personne en face, en disant « Mais tu te rends pas compte, mais c'est de ta faute, tu n'écoutes pas, tu n'agis pas, tu. » Est-ce que vous avez vécu ça récemment? De vouloir balancer votre émotion sur la personne en face, juste par envie de soutien, envie de compréhension, envie d'empathie, envie d'écoute. C'est plus facile de balancer son émotion à l'autre en la rendant responsable. Je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je dis juste, on l'a tous fait. On a tous essayé de balancer notre flamme sur l'autre personne, le partenaire de vie ou l'enfant. Mais t'écoutes rien, tu te fiches de moi, tu me fatigues, tu m'agaces. Toutes ces phrases qu'on a dites à nos enfants, même à nos élèves. J'entendais encore des enseignants dire ça à ses élèves. Oui, c'est une habitude de langage. C'est une habitude qui nous dessert autant nous que l'enfant. Parce que l'enfant, du coup, comprend qu'on peut impacter l'émotion de l'autre, qu'on peut être responsable de l'émotion de l'autre. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose de bon à installer pour eux, justement pour leur faire comprendre l'indépendance émotionnelle et l'autonomie émotionnelle de leur propre cheminée. Si nous-mêmes, en tant que parents ou éducateurs ou accompagnants, on fait porter nos émotions à une autre personne, l'autre personne en face pourrait s'en sentir redevable, pourrait effectivement se sentir responsable de nos émotions. Prenons le cas le plus concret, un enfant à qui on dit « Oh, maman, elle va être triste si tu fais ça. » On l'a tous entendu, on l'a peut-être tous vécu aussi. Ou « Attention, je vais dire à papa si tu fais ça. » Mais papa et sa colère ou sa tristesse ne sont pas liés à ce que fait l'enfant. C'est un raccourci. L'enfant va poser des actions qui peut-être vont faire clignoter notre rayure de sécurité, notre rayure de valeur, de congruence, de cohérence, de sens. Et nous, ensuite, on va reformuler et on va voir comment ajuster le comportement de l'enfant. Mais en aucun cas, c'est l'enfant qui va nous mettre en colère. Ce n'est pas l'enfant qui va nous rendre triste. Donc, il y a eu plusieurs épisodes autour du décodage des comportements de l'enfant. Je crois que c'était le 67, il me semble. Et de voir que l'émotion de l'autre peut nous impacter est intéressante aussi dans le sens où si on prend le comportement de l'autre et l'émotion de l'autre comme un déclencheur sans y apporter le filtre de la pensée étincelle ou de nos braises, à notre tour, on va être contaminé par l'émotion de l'autre. Et ça vous est peut-être arrivé déjà de rentrer dans une salle de réunion ou de rentrer dans un lieu et d'être impacté par l'énergie, l'ambiance, l'humeur des gens et que ça vous affecte au point de vous vous sentir triste ou en colère. Ou on a ces moments où les autres font porter leurs émotions sur nous. Est-ce qu'on est capable de faire la part des choses entre l'émotion de l'autre et la mienne? Est-ce qu'on arrive à reformuler que son émotion lui appartient et que mon émotion m'appartient, et de mettre une étanchéité entre les deux? Donc il y a plusieurs exercices qu'on fait avec le parcours émotizen pour arriver à couper ce lien entre l'émotion de l'autre et la mienne si je n'ai pas envie de porter secours à cette personne. Évidemment, si vous avez envie de porter secours à l'émotion de l'autre, c'est tout à fait possible. Mais créer l'étanchéité entre sa cheminée et la nôtre reste un prérequis pour éviter d'alimenter l'émotion de l'autre. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu aussi, quand notre enfant est en colère et que nous, on est en colère aussi, généralement, ça ne s'arrange pas très très bien. Il finit par y avoir quelque chose qui claque. Soit la porte, soit la main, soit... Mais en général, ça se finit mal. Parce qu'on a beaucoup de mal à accueillir l'émotion de notre enfant quand nous-mêmes, on est contaminé. Donc, je nous invite tous à regarder la prochaine émotion forte qu'on aura. Est-ce qu'on arrive à la porter seule? Est-ce qu'on arrive à admettre qu'on est responsable de cette émotion sans se sentir coupable de la ressentir? Ça, ce sera peut-être un autre chapitre. Mais se dire, ah oui, là, je la ressens bien, cette émotion. Elle est venue de tel déclencheur. Voici les pensées étincelles que Léopold m'a envoyées. Voici les besoins qui ont clignoté sur mes rayures face à cette situation. Quelles sont les actions que je pourrais mettre en place pour sortir de cette flamme qui me déplaît, de sortir de cette flamme désagréable et de retrouver un équilibre, peut-être avec un temps de qualité avec moi-même, peut-être avec un temps de discussion avec le partenaire, peut-être avec un temps de décharge, de détente, de défi, etc. Mais pour descendre une émotion désagréable, la balancer à quelqu'un d'autre, rendre l'autre responsable, n'est pas une action sur le long terme. Ça peut marcher sur le court terme, ça peut faire une sorte de décharge, mais en général, ça abîme le lien à l'autre, parce qu'on lui fait porter quelque chose qui le dépasse. Et particulièrement quand c'est un enfant, ça peut être assez dommageable de systématiquement faire porter nos émotions à un enfant. Parce qu'en grandissant, cet enfant-là, il va se rendre compte que c'est peut-être de sa faute si sa mère est triste, c'est peut-être de sa faute si sa mère est en colère, donc c'est peut-être que ce n'est pas une bonne personne et qu'il est lui-même responsable de l'état émotionnel de son parent. Et on a parfois vécu ça, nous, en étant enfant. On a pu se sentir responsable de l'état émotionnel de nos parents. Alors, je me relie à vous si vous venez de prendre conscience de ce point-là, qui fait un petit peu mal au début, qui peut justement déclencher une flamme, parce que peut-être on aurait aimé que chacun des adultes autour de nous soit conscient de cette indépendance émotionnelle pour lui-même, sans nous faire porter ses émotions sur nous. Donc, c'est un cheminement que j'ai parcouru ces deux dernières années, de voir à quel point la contamination émotionnelle m'avait mis dans une colère très très forte et que pour dépasser cette colère de ne pas avoir été indépendante émotionnellement, d'avoir été contaminée par les émotions, demande aussi du courage. Parce que les exercices pour sortir de là, ils sont nombreux en fait. Il va y avoir plusieurs exercices qu'on pourra travailler en séance si vous le souhaitez, mais il va y avoir des exercices autour de la reformulation de ce qu'on a vécu, d'admettre quels étaient nos besoins à l'époque, d'aller chercher dans le bocal à deuil quelles blessures on va pouvoir soigner, apaiser, pour redevenir la personne avec qui on a confiance. Et puis, il y aura peut-être un moment où on va pardonner à la personne en face de ne pas avoir été indépendant émotionnel. Et nous aussi, on va pouvoir se pardonner d'avoir reçu les émotions de l'autre comme si elles étaient les nôtres. On ne savait pas. On n'avait pas ces clés. On n'avait pas ces outils-là. Moi-même, je n'avais pas ces outils-là. Et finalement, je pense que c'est précisément parce que je n'avais pas ces outils-là que je les ai créés. Donc la mission des petits plus zen, elle est bien, bien entendu auto-soignante pour moi, parce que j'ai créé les outils dont j'avais besoin pour me sortir de cette contamination émotionnelle que je sentais permanente en fait. J'avais toujours l'impression que les autres me faisaient porter leurs émotions et je ne savais pas mettre une barrière étanche avec les émotions des autres. J'espère que ce descriptif de la contamination émotionnelle est plus clair. Il est encore un petit peu différent concernant les enfants, hein, parce que les enfants ont des flammes qui se déclenchent encore plus vite et qui changent vraiment très très rapidement. Sur la composition de la cheminée de l'enfant, il y a un module spécifique dans l'émotizène, donc je ne vais pas vous le détailler ici, mais les enfants ont besoin encore plus d'accompagnement pour comprendre leur propre flamme et comprendre que celle de l'adulte n'est pas de leur ressort. Donc il y a beaucoup de petits sous-exercices si vous avez envie d'aller plus loin sur cette question. Et dans un premier temps, si tout ça est très confrontant, je vous envoie beaucoup de soutien, d'amour et de courage, parce que cette prise de conscience-là, elle peut être assez vertigineuse et déstabilisante. Je conçois que vous puissiez entendre que tous ces éléments-là, suivant votre âge, hein, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans à prendre en considération. Il y a des sorties possibles. Je suis là, vous pouvez me contacter sur les réseaux, on verra ensemble quelle est l'offre qui vous convient le plus particulièrement. Emotizen permet de comprendre le mécanisme et le processus avant de le soigner. Donc les clientes sont plutôt contentes d'avoir compris ça avant de pouvoir l'appliquer. Mais si vous avez envie qu'on rentre dans le dur et dans les exercices directement, on peut faire directement un suivi sur mesure. À vous de voir. Je vous laisse réfléchir à votre contamination émotionnelle de vous à l'autre et aussi de l'autre à vous. Regardez si c'est le cas au travail. Regardez si c'est le cas dans votre belle famille, avec vos amis. Certains amis sont très contaminants émotionnellement. Il va y avoir des sorties, je vous le réassure, et en reformulation positive, et avec le tequila, et avec le bocal à deuil, et avec les mentales de stratégie. Il y a beaucoup d'outils qui existent, d'exercices qui existent. Je me ferai un plaisir de vous les enseigner, de vous les partager, de vous les communiquer pour que, à votre tour, vous soyez autonome émotionnellement. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis bon courage. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.